Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Leistari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients, oui,
tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spetzel.
Oh mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Quand on vous dit saucisse, quelle est l'image mentale qui vous vient le plus naturellement? Est-ce la knack alsacienne, la saucisse de Strasbourg? La wurst allemande? La chipolata? La saucisse d'Italie du Nord, la luganega? Celle de Sicile aux graines de fenouil? Il y a tellement de saucisses sur Terre. Historiquement, il s'agit de l'un des meilleurs moyens de conserver la viande lors de périodes d'abondance, en prévision des jours moins heureux. Dans l'Odyssée, Homère racontait déjà le goût des Grecs pour les saucisses grillées. En fait, ce souci de praticité s'est vite transformé en réel plaisir gustatif. Dans un épisode précédent, on vous racontait les origines médiévales du flan. Eh bien, les saucisses aussi ont été démocratisées au Moyen-Âge. C'est à cette époque qu'on commence à les associer avec des épices ramenées des croisades. Mais apparemment, elles auraient été inventées bien avant, par les Chinois, en 1500 avant notre ère. Tout ce que je vous dis là, je le tire d'un magnifique livre de recettes sur les saucisses que des amis m'ont offert il y a quelques années pour mon anniversaire. Cet été encore, je l'ai ressorti pour y piocher une recette de risotto à la luganega que j'ai réalisée en vacances à Venise. Merci les copains pour cet ouvrage important de ma bibliothèque, dont je laisse les références dans la description de cet épisode. En deuxième partie d'émission, je discute avec Caroline Niebling, chercheuse diplômée de l'ECAL, haute école d'art et de design à Lausanne. Pour cette néerlandaise qui vit aujourd'hui en Suisse, la saucisse est une réalisation charcutière à repenser en ces temps de réchauffement climatique. Alors qu'il faut réduire la consommation de viande sur Terre, à quoi peut ressembler la saucisse du futur, se demande-t-elle dans son ouvrage The Sausage of the Future.
Je dis toujours aux bouchers, montrez ce que vous faites. Ne cherchez pas à avoir une texture complètement homogène. S'il y a différents éléments, alors agencez-les de manière à ce qu'on puisse les voir et comprendre ce qu'on mange. Pour moi, c'est important de ne pas tromper le consommateur, que ce soit sur la forme de la saucisse ou pas. Quand vous voyez mes essais, vous savez tout de suite que ce ne sont pas des saucisses à la viande. Vous comprenez immédiatement de quoi elles sont composées.
Mais avant ça, nous avons rejoint Antonin Bonnet dans la boucherie charcuterie Triperie Grégoire, qu'il vient d'ouvrir à quelques pas de son restaurant le Kinsou, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Comment un chef étoilé, déjà bien occupé, se retrouve-t-il à ouvrir un commerce de proximité ? Antonin explique qu'en amoureux de pièces de viande attachées à la lutte contre le gaspillage, il a souhaité avoir un lieu où recevoir des bêtes entières pour en travailler tous les morceaux, des plus beaux qu'il sert dans son restaurant aux autres qu'il cuisine en terrine ou justement en saucisse. Pour cela, il s'est entouré d'une équipe de charcutiers traiteurs, des artisans dont l'expertise est précieuse à l'heure où de nombreux acteurs du commerce de la viande font de la charcuterie sans avoir été formés à cette spécialité. Après avoir dit à Antonin que les trois saucisses de ma vie sont les knack purées de mon enfance, les saucisses à la citronnelle qu'on appelle lap suong en vietnamien et la currywurst, cette saucisse recouverte de sauce tomate et de curry que je mangeais souvent quand je vivais à Berlin, je lui ai demandé les siennes.
J'ai des souvenirs marqués de saucisses aux herbes qu'on mange dans les Cévennes, où la moitié de la viande est remplacée par des blettes ou des épinards et des oignons. Effectivement, la Strasbourg, comme on l'a évoqué sur le premier, et en troisième, c'est une saucisse au porc et au poivre, tout simple, quoi. C'est pas la chipot, c'est le modèle au-dessus, c'est la saucisse au couteau. Et
ah
ça,
oui.
Ça, c'est très très bon, juste grillé. Bon, il y en a une quatrième, je l'ai rajoutée, c'est la saucisse des cousins de chez Conquet. C'est une saucisse qui est faite avec la rate, le cœur, le foie, la couenne, et qui est juste poché et mangé en d'habitude avec des lentilles. Et ça, c'est un souvenir très marquant, en fait.
Poché et pas grillé, alors?
Poché et pas grillé, oui. Parce que toutes les saucisses, c'est pas forcément grillé. Hein. Faut bien qu'on soit d'accord.
Et alors, d'ailleurs, vous les préférez comment en cuisson, les saucisses?
Ça dépend. Il y a une telle diversité que... Une Strasbourg, par exemple, c'est poché. Une vraie Strasbourg poché, c'est joli. Une saucisse aux herbes, par exemple, grillée sur des braises au feu de bois, surtout sur des bocs de châtaignier, c'est incroyable. C'est une histoire de pays, une histoire de goût. Ça va juste bien ensemble. La saucisse des cousins, c'est dans un bouillon avec quelques carottes, un oignon piqué, de clou de girofle. Le saucisson de Lyon, pistache, c'est pareil. C'est fini en brioche si on veut, mais pas forcément. Je sais que des patates et un peu de beurre de micelle, c'est une tuerie. Je pense que c'est sans fin. c'est sans fin.
Donc vous avez ouvert une boucherie, ou plutôt repris une boucherie ?
On a repris une boucherie, oui.
L'histoire de la reprise de cette boucherie tient une rencontre fortuite, il me semble.
C'est un peu dingue, c'est un accident de la route. C'est une livraison de viande qui, au lieu d'atterrir au restaurant, a atterri à la boucherie. Le boucher, très gentil, vient me voir en me disant « Écoute, j'ai mis ta viande dans le frigo, si tu veux, tu peux la garder quelques jours avant de l'utiliser. » Pour moi, c'est très pratique, j'ai pas trop de place dans mon restaurant. Lui, il a un grand frigo, une belle chambre froide. C'est le bonheur, parce qu'on fait rentrer tous les aliments en entier, toutes les semaines. Ma viande a un joli espace pour se reposer. Et puis, de fil en aiguille, j'y vais un petit peu au pied levé et je leur fais une proposition. Au début, c'était pas gagné. Il a fallu quand même un bout de temps, beaucoup de tractations. Et puis, ça a fini par se faire. Voilà. Donc, c'est un peu un pari fou, dingue, parce que je suis pas boucher de métier. Mais quelque part, il y avait une évidence. Et aujourd'hui, une vraie synergie entre le restaurant et la boucherie.
Qu'est-ce que ça vous permet alors d'avoir ces deux endroits ?
Aujourd'hui, ça me permet de travailler de très bons morceaux de viande avec une belle diversité. Des fois, des pièces qui sont inaccessibles. Des fois, des pièces plus accessibles. Mais bon, surtout d'avoir des professionnels avec qui je peux travailler, qui vont m'aiguiller sur ça, tu peux le rôtir, ça éventuellement, tu peux le griller, ça, tu peux le pocher, ça, c'est plutôt pour confire, etc. Ensuite, on peut utiliser vraiment la bête dans son intégrité, dans son intégralité et dans son intégrité. Et ça, c'est un gros plus. Ça veut dire que si on prend un animal en entier, on peut utiliser tout l'animal, la quintessence. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les jolis morceaux, mais on peut utiliser les bas morceaux pour différentes préparations, mais aussi les parures pour faire les jus, les os pour faire les bouillons, le cœur et le foie pour les gens qui sont assez chanceux de les avoir au moment où ils sont dans leur primeur, c'est-à-dire dans les premiers jours. Donc on a tout un panel aujourd'hui de produits qui sont top et qu'on peut proposer au restaurant tout le temps. Et ça, c'est incroyable.
Vous faites des saucisses aussi ?
Alors, on fait aussi des saucisses. On fait des saucisses pas parce que c'est modeux, mais parce que c'est quelque part une façon d'utiliser une partie de l'animal et de les valoriser. Il y a certains morceaux qui sont un peu plus gras que d'autres. Il y a certains morceaux qui sont beaucoup plus maigres. Il y en a qui sont un peu durs, etc. Et donc, il y a la création d'une saucisse, en fait, c'est le mélange des différentes viandes pour créer du goût et de la texture et équilibrer aussi le gras dans la saucisse. Une saucisse trop grasse, c'est pas bon. Une saucisse pas assez grasse, c'est pas bon non plus, il faut être honnête. Le gras est facteur de goût. Ensuite, le bon gras, non seulement est facteur de goût, mais pas forcément mauvais pour l'organisme. Tout est une question de quantité. Faut être très clair. C'est sûr que manger 10 kilos de saucisses par jour, c'est pas bon pour l'organisme. En manger une fois de temps en temps, s'il est de qualité, ça peut vraiment pas faire de mal. Il faut pas se prendre la tête. Ensuite, dans toutes les saucisses qu'on fait, c'est très simple. C'est de la viande d'abord, des épices éventuellement, si on a décidé d'en mettre, du sel et du poivre, c'est tout. Il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. C'est du frais, c'est droit et c'est aussi propre que l'on puisse... on essaie de faire aussi propre que possible. Pas propre dans l'hygiène, mais propre dans la provenance des aliments. Toutes les viandes sont issues des carcasses qu'on fait venir, qui sont issues de fermes bio ou enraisonnées. C'est des élevages issus de la permaculture ou de l'agroforesterie. Et je pense qu'aujourd'hui, faire mieux, oui, on peut toujours plus, mais je pense qu'aujourd'hui, on est pas mal au niveau du cahier des charges.
Alors, vous proposez des saucisses de veau aux zaatar, ce mélange d'épices du Moyen-Orient. Mmh. On en a d'autres aussi, me semble.
Alors, on a la Toulouse, classique, bien poivrée, donc avec un joli poivre noir de Malabar. On a la saucisse veau, donc avec un petit peu de gras de cochon aux zaatar. Ensuite, on a une merguez. Merguez, c'est moitié bœuf, moitié agneau. Et dedans, il y a une partie de gras de bœuf à l'intérieur. Sel, poivre et des épices. On met paprika fumé, de la poudre d'ail. Et qu'est-ce qu'on met d'autre aussi ? Du harissa à la rose. Et ça donne quelque chose de très parfumé avec légèrement mentholé. Et c'est juste délicieux. Donc, c'est pas fort, ça tabasse pas, ça arrache pas la gueule. C'est pas le but du jeu, c'est avoir quelque chose de délicat et d'équilibré. Ça, c'est notre but, en fait. On doit goûter la viande d'abord, le reste après.
Donc ça, c'est les secrets d'une saucisse parfaite,
pour
la
nous.
Réflexion autour de la texture et aussi du goût.
Pour nous, oui. Il doit y avoir une notion d'équilibre dans tout ce qu'on fait. Tous les produits nous ressemblent dans le sens où on les a goûtés, on les regoute régulièrement. Dès qu'on a un doute, je cours à la boucherie, je prends une boulette. Hier soir, j'avais un doute sur la boulette, j'ai pris une boulette, je l'ai ramenée, on l'a cuite, je l'ai goûtée. J'ai réfléchi, je suis retourné là-bas, je reposais la question, est-ce que la boulette, vous la passez à quelle grille, comment elle fait le mélange, quelle quantité de mélange elle fait. La boulette hier est un peu, la texture est un peu élastique, ça me plaisait pas, je suis allé voir. Et effectivement, au lieu de faire un batch simple, ils ont fait un batch x4, donc j'ai dit on arrête, il faut refaire.
Qu'est-ce que c'est un batch?
C'est un mélange en fait. Donc au lieu de faire le mélange simple, ils ont fait multiplier par 4. La viande a dû s'échauffer pendant le process, dans le procédé. Le mélange a été mal amalgamé. Et au lieu d'avoir une texture qui s'effrite et qui est jolie en bouche, on a quelque chose qui est un petit peu élastique. C'est pas une catastrophe, on est loin du délire, mais ça rentre pas dans le, ça rentre pas dans le moule. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on en parle et on retravaille tout le produit.
Et quelles sont les différentes étapes de fabrication d'une saucisse?
Alors d'abord, la sélection des morceaux. Ensuite, la pesée des différents morceaux pour créer l'équilibre. Ensuite, le taillage des différents morceaux pour cet équilibre. Donc la répartition dans un bac pour que les morceaux soient entre le gras, le dur, l'agneau, le bœuf, etc., tout soit équilibré. Ensuite, on assaisonne, on mélange, et il y a à peu près 12 heures, entre 0 et 1 degré, pour que la viande, en fait, prenne vraiment tout l'assaisonnement. Ensuite, on baisse la température de la viande à moins 2, moins 3, et on passe au hachoir. Et là, il faut vraiment que pour nous, la température soit maintenue entre moins 1 et, on va dire, 2 degrés max. Ensuite, on fait le brassé, mais on ne fait pas de brassé, on n'émulsionne pas trop la viande. Je ne veux pas qu'elle colle. Je veux que la saucisse elle s'effrite. Pour moi, c'est important. Si la saucisse colle, ça ne m'intéresse pas. Il y a vraiment une extra texture dedans. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle... on la passe dans les boyaux. Alors, je sais qu'il y a un terme technique, j'ai oublié, mais...
On l'embosse.
On l'embosse, tout simplement.
On la passe dans l'embosseur.
Ouais, on la passe dans l'embosseur. Elle est embossée. Ensuite, elle s'enroule à la main. Et c'est prêt, quoi. On y va.
Alors, les gens qui travaillent dans cette boucherie, est-ce qu'ils ont un CAP charcutier-traiteur?
Alors, tous ont un CAP ou une qualification boucheur, oui, charcutier-traiteur. Ils n'avaient pas forcément travaillé tous les process jusqu'à ce niveau. Et je profite, moi, de mon œil extérieur, en fait, pour les déranger, les titiller et pousser un petit peu l'enveloppe. Voilà. Tout simplement. Voilà, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça comme ça? Mais parce qu'on a toujours fait comme ça, oui. Mais est-ce que demain, si on change un petit peu, on ne pourrait pas avoir une qualité un petit peu différente et peut-être un goût, une texture, quelque chose de différent? Donc, on essaye et très souvent, c'est adopté.
Donc, ce qui se passe finalement dans l'antre de cette boucherie, c'est qu'il y a le regard très expert de ces personnes qui ont leur diplôme, leur CAP d'artisan charcutier.
Ouais.
Et il y a votre regard de chef qui, du coup, va essayer peut-être d'apporter plus de créativité dans ce classicisme.
La créativité, quelque part, elle est surtout au niveau du goût et de la texture, de la fraîcheur, de la vision. J'essaie de leur apporter l'expertise, quelque part, qu'on a au restaurant, qui est des fois beaucoup plus critique, quelque part. Je ne dis pas qu'il y en a qui n'ont pas l'œil critique en boucherie, attention, ce n'est pas du tout ça. Mais une remise en question perpétuelle, qui est importante pour qu'on garde un standard de haute qualité, en fait. C'est très important.
Donc la saucisse, c'est un produit quand même assez populaire, dans le sens où dans l'imaginaire collectif, ouais, tout le monde en a des souvenirs. Et en même temps, c'est vrai qu'il arrive fréquemment de tomber sur des saucisses plutôt de qualité moyenne. Donc il y a quand même de l'exigence à mettre derrière ce produit très répandu.
Bon, tout le monde voit midi à sa porte. Mais je pense, comme dans tout produit, dans tout département, il y a des abus. Il y a des gens qui font des saucisses avec des trucs pas terribles. Dommage. Mais aujourd'hui, en général, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a quelque chose qui... Il y a un truc, quoi. Ça peut pas être de la belle qualité, ça peut pas être de la bonne cam, quoi. Alors après, trop cher non plus, attention, hein, faut pas partir dans l'excès. Je pense qu'il y a un juste prix et il y a des artisans qui font bien leur métier et je pense qu'il faut leur faire confiance.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des idées de nouvelles recettes de saucisses à expérimenter bientôt?
Je pense qu'il y en a une infinité à produire. Je pense qu'il y a autant de saucisses, qu'il y a de produits, qu'il y a d'animaux, qu'il y a d'épices, qu'il y a de volonté. Après, une histoire de bon sens, si c'est juste pour faire une saucisse au porc et à la fraise écrasée, non, ça m'intéresse pas. En fait, on va juste une histoire de principe quand même.
Oui, le but, c'est pas juste de chercher l'originalité de premier degré.
Non. Il y a un vrai sens aux choses, quoi. Là, je pense qu'il y a les châtaignes qui vont arriver. Si on peut faire une saucisse au cochon, châtaigne fumée, on va trouver un autre truc. Je pense que ça peut être bien, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des viandes qui sont plus faciles à travailler que d'autres pour les saucisses?
Le cochon.
Ouais.
On va être honnête. Il faut appeler un chat un chat, quoi. Il y a du gras, il y a une vraie gourmandise dedans, ça se fait bien. Le gibier s'y prête aussi beaucoup.
Ah oui?
Mais de toute façon, il y a toujours un ratio gras de cochon qui revient dedans, ou Dans le veau, j'aimerais essayer avec, par exemple, du veau et du gras de rognon de veau. Mais là, pareil, les gens, dans leur imaginaire, ça va être, ça peut devenir compliqué, en fait. Là, on va toucher vraiment, on va devenir pointu, en fait. Et ça peut être compliqué quand la saucisse, c'est populaire. Tout d'un coup, on fait la saucisse pour des gens très spécialisés. C'est un petit peu bizarre, mais bon, voilà.
Mmh, oui. Et donc, dans les saucisses de veau, est-ce qu'il y a souvent quand même du gras de bœuf ou de porc?
Alors, j'aimerais essayer de faire une saucisse de veau 100% veau, mais il faut que je trouve un facteur de goût ou de support de goût, en fait. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, vraiment. Et puis, il y en a une que j'aimerais vraiment essayer, c'est une saucisse au kimchi, mais bon.
Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Si, si. Si, si, il faut vraiment essayer, je pense.
Ah ouais, ça doit être super
intéressant. Je pense qu'il y a un gros truc à faire, je pense.
Donc, kimchi, le chou fermenté, pimenté.
Ouais.
Et aujourd'hui, quelle est celle qu'on vend le plus à la boucherie?
Alors, la plus populaire aujourd'hui, c'est la za'atar.
Ouais.
Elle est vraiment, c'est un gros coup de cœur pour tout le monde. Et il y a vraiment un très bel équilibre. Il y a le côté mentholé, léger. Il y a des gros morceaux de veau dedans, pour qu'il y ait une vraie mâche. Et ça reste, il y a un bel équilibre de sel. C'est joli, non? C'est bien fait, quoi.
C'est important, selon vous, donc, qu'il y ait encore cette mâche, qu'on puisse distinguer les morceaux de viande dans la saucisse?
Ouais. Aujourd'hui, j'en ai marre parce que tout est mou, tout se gobe. Non, là, il faut un couteau, une fourchette, et il faut mastiquer pour ressentir la jutosité de la viande et l'ampleur, en fait, du goût. Ça fait partie de l'ADN de l'homme, de mâcher, de mastiquer pour avoir une expérience gustative. Manger du mou, c'est au début de notre vie, quand on est jeune, on n'a pas de dents, on gobe, on avale. On boit du lait. Et après, quand on est vieux, malheureusement, qu'on a perdu une partie de la dentition. Donc, c'est au début et à la fin. Mais au milieu, on est dans la force de l'âge. Mastiquons.
Si vous deviez recommander à nos auditeurs et à nos auditrices une petite recette là, de saucisse avec un accompagnement, qu'est-ce qui vous fait craquer à cuisiner comme ça chez soi?
En ce moment, on va dire les dernières tomates du jardin, juste taillées grossièrement en dés, un bon coup d'huile d'olive, un bon zeste de citron, une demi-gousse d'ail écrasée, un peu de basilic remué, une demi-botte de persil lâchée dans le travers. On fait une sorte de salade de tomates un peu rustre et une saucisse aux atars juste grillée par-dessus. Une tranche de pain grillé, ça suffit. Pour moi, c'est magique. C'est, voilà. Des fois, c'est pas midi à 14h. Et il n'y a pas besoin de faire forcément la pomme purée avec la saucisse. Hein. C'est pas...
Oui.
À midi, au personnel, par exemple, on s'est fait des courgettes sautées avec un petit peu de fromage dessus et de merguez. Ouais.
Bah, c'était parfait.
C'était juste super parfait, quoi.
J'ai quitté Antonin dans sa charmante boucherie charcuterie d'époque, au milieu des joues de bœuf confites sauce gribiche, des caillettes aux blettes des Cévennes, du fricando de l'Aveyron, des foies de veau, pigeons et autres pâtés en croûte. J'ai ensuite voulu donner la parole à cette chercheuse en design qui propose de réfléchir à la saucisse en tant qu'objet populaire, mais aussi matière à penser à un monde moins carné. Dans son livre « Sausage of the Future », ma saucisse préférée est celle aux abricots et aux carottes. Elle est toute orange et n'a de saucisse plus que la forme tubulaire. On a demandé à Caroline Nibling de nous raconter comment ce projet de saucisse du futur est né.
L'idée a germé dans mon esprit parce que je voulais faire quelque chose sur la consommation de viande. J'avais lu un article et j'étais un peu surprise de constater à quel point on nous répète que notre consommation de viande a un impact sur l'environnement. J'ai donc simplement commencé à m'intéresser à ce que la science et l'industrie faisaient pour apporter des réponses. Et je me suis rendu compte que la plupart des recherches portaient sur la façon d'imiter et de cultiver de la chair animale. Pour moi, cette approche n'est pas la bonne. En faisant ça, vous trompez le consommateur. Et c'est aussi pour ça que la saucisse en tant que plat m'a intriguée. C'est l'une des premières choses que l'humain a créées.
Oui, vous avez écrit que la saucisse est l'une des premières créations alimentaires de l'humanité.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous en dire davantage?
Eh bien, cela a commencé parce qu'il fallait être efficace. Il y a 5000 ans, il fallait utiliser tout ce que l'on avait sous la main. Mais ce qui est aussi très intéressant à propos de la saucisse, c'est que c'est la première fois que l'homme a pu emporter avec lui de la protéine pendant qu'il partait en exploration. Ça a permis aux humains de s'aventurer dans des zones plus froides bien plus tôt.
Alors vous faites du design, et pour vous, la saucisse est un objet de design qui se mange. Est-ce que c'est le cas de toute création alimentaire ?
Je pense que oui, parce qu'on peut faire appel aux mêmes principes, ce qui est vraiment très chouette. Il faut penser en termes de logistique, de processus, d'esthétique, d'enveloppe, de durée de vie. Et toutes ces questions, vous vous les posez quand vous travaillez sur la conception d'une lampe ou d'une chaise, par exemple.
Vous avez travaillé avec un chef de cuisine moléculaire, un boucher.
J'ai interrogé pas mal de bouchers pour savoir ce qu'ils considéraient comme la meilleure découpe ou la meilleure saucisse. Je savais que leur avis serait intéressant.
Et donc, vous avez aussi travaillé avec un chef de cuisine moléculaire. Donc, toutes ces professions sont hyper spécialisées. Comment vous avez fait pour articuler leurs connaissances ?
Eh bien, j'ai surtout travaillé avec Gabriel Serrero parce que c'est un expert sur la question de la texture. Quand nous avons travaillé sur un pâté à base d'insectes, par exemple, la texture était très importante. Nous avons mis pas mal de temps à développer une recette qui soit vraiment bonne. Pareil pour le salami à base de fruits. Il n'y a pas de viande dans cette recette, mais je voulais trouver des textures intéressantes. Nous avons donc travaillé ensemble et il sait exactement comment obtenir une texture friable, plus moelleuse ou davantage fondante.
Et j'imagine que le boudin a dû être un sacré challenge.
Ce qui est drôle, c'est que si vous bandez les yeux de quelqu'un et que vous lui donnez à manger du pudding au chocolat, fait à base de sang et de chocolat, il ne sentira pas qu'il y a quelque chose d'anormal dedans. La personne ressentira uniquement le goût d'un pudding au chocolat bien riche et corsé. En fait, la chose la plus difficile a été de convaincre les gens de le regoûter avec cette nouvelle information en tête. Si vous mangez de la viande, on pourrait supposer que vous n'allez avoir aucun problème à l'idée de manger du sang. Mais je comprends que certaines choses peuvent être moins ragoûtantes, comme le sang. J'appelle ça la psychologie du dégoût. En ajoutant du chocolat à la recette, ça provoque un effet psychologique intéressant, parce que le produit devient marron comme du chocolat et plus seulement marron.
Vous avez écrit ces mots dans le livre à propos de la psychologie du dégoût et du désir pour tout ce qui est délicat. La barrière à franchir, la plus rencontrée, est la barrière psychologique. Et justement, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés par les saucisses. Comment vous vous expliquez ça ?
Oui, c'est vraiment dommage. Je pense que le problème vient de l'industrie et de tous les scandales qui ont eu lieu. Parce que la saucisse est produite par cette industrie, tout le monde est au courant. Mais si vous faites confiance à votre boucher, vous savez qu'il n'y a que des bonnes choses dedans. Comme des restes de steak, par exemple. Il n'y a aucune raison d'être méfiant. La seule chose, c'est que, en voulant réduire les coûts de production de la saucisse, l'industrie agroalimentaire s'est mise à utiliser des matières premières peu nobles. C'est également arrivé pour les lasagnes et d'autres produits. Donc il n'y a aucune raison d'avoir plus peur des saucisses.
Mais si l'idée est de réduire notre consommation de viande, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt abandonner l'idée de manger des trucs qui ont la forme de la viande ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est une question pas facile. Je pense que tout ce qui peut réduire la consommation de viande est une bonne chose. Personnellement, je ne crois pas au régime alimentaire qui exclut certains types d'aliments. Je ne crois pas au véganisme et au végétarisme, par exemple. Parce que je pense que le premier enjeu est de réduire le gaspillage. Ça, c'est le plus important pour moi. Sur la question de la nourriture qui a l'aspect d'une saucisse, c'est très difficile parce que les machines sont faites pour produire de la matière en tube. Ce que je voulais faire, c'était permettre aux bouchers d'innover, leur montrer qu'ils peuvent utiliser ces machines pour faire d'autres choses. Mais pour l'instant, les choses n'ont pas trop évolué. Et puis, il y a encore beaucoup de gens qui veulent avoir des substituts de viande. Faites de meilleurs nuggets de faux poulet et vous allez grandement réduire la consommation de poulet, par exemple.
Oui, c'est aussi l'esprit des initiatives comme The Impossible Burger. Certaines personnes mettent en avant le fait que pour réellement changer les mentalités, il faudrait changer de paradigme et inventer un nouvel imaginaire sans viande. Mais c'est vrai que pour d'autres, il faut d'abord faciliter la vie des gens qui aiment la viande et les prendre par la main.
Oui, j'ai essayé d'être transparente sur la composition des saucisses. Je dis toujours au boucher, montrez ce que vous faites. Ne cherchez pas à avoir une texture complètement homogène. S'il y a différents éléments, alors agencez-les de manière à ce qu'on puisse les voir et comprendre ce qu'on mange. Pour moi, c'est important de ne pas tromper le consommateur, que ce soit sur la forme de la saucisse ou pas. Quand vous voyez mes essais, vous savez tout de suite que ce ne sont pas des saucisses à la viande. Vous comprenez immédiatement de quoi elles sont composées.
Oui, alors votre livre montre plusieurs types de saucisses. Elles sont toutes très originales. Il y a le boudin d'agar et de pommes, le pâté d'insectes. C'est laquelle votre préférée ?
C'est difficile parce que toutes ces recettes ont une place particulière dans mon cœur et elles ont demandé beaucoup de temps dans leur élaboration. Mais je dirais le salami de fruits. C'est très savoureux. Mais ce que j'aime, et là c'est la designeuse qui parle, c'est qu'il a la même fonction que la saucisse classique. Le saucisson est l'une des premières recettes qu'on ait inventées. Je voulais en créer une version qui soit faite avec les mêmes machines, mais qui pouvait aussi se conserver sans réfrigération pendant au moins un an. Et ça a fonctionné pour le salami de fruits.
J'aime beaucoup la saucisse à l'abricot et à la carotte. Au moins d'un point de vue esthétique, en tout cas.
Ah oui ? Il y a tellement de déclinaisons possibles. Je pense que pour les bouchers, le mieux est de débuter avec ça.
Alors, il y a plein de sortes de saucisses sur Terre. Fermentées, fraîches, sèches, cuites. Et qu'en est-il des boyaux ? Est-ce que c'est simple d'en trouver des versions végétales ?
Oui, aujourd'hui, c'est assez simple. Ces options ne fonctionnent pas toutes comme des boyaux. Celles dont vous avez parlé, par exemple, les saucisses à base d'abricots, elles sont si petites et fines que ça fonctionnerait mieux avec un boyau. Il y en a, et ça se développe assez vite. Il y a même de nouvelles façons d'embosser les saucisses simplement en versant un liquide qui va figer et recouvrir la saucisse d'une fine pellicule et permettre de la conserver. Je pense que ça se développe bien. Et je pense aussi qu'on peut innover en matière d'embossage. Les feuilles, par exemple, sont très intéressantes pour emballer de la nourriture.
Est-ce que vous pensez qu'un jour les bouchers pourront vendre des saucisses végétariennes ?
Je l'espère. J'espère qu'ils seront tellement convaincus par ces nouvelles possibilités qui s'offrent à eux, qu'ils deviendront créatifs par la force des choses. Les bouchers et les charcutiers faisaient partie des personnes les plus importantes dans les villages. Aujourd'hui, ils sont marginalisés. On leur répète que la viande, c'est mal, que ce qu'ils font est mal. Si on les aide à évoluer, ils pourront de nouveau créer des choses surprenantes. Et je pense et espère que ça arrivera à l'avenir.
Et qu'est-ce que vous avez en tête ? Des bouchers classiques qui vendent des saucisses de viande, mais aussi des viandes végétales ? Ou des bouchers 100% végétaux ?
L'idéal serait, et c'est un peu un fantasme, mais je pense que ça devrait être adapté à l'environnement où ils se trouvent. Si c'est un boucher un peu à la mode installé dans une grande ville, ses produits seront probablement végétariens parce qu'il y aura de la demande. Mais si vous êtes près de la forêt et qu'il y a des animaux sauvages autour, je pense qu'il faut qu'ils participent à la régulation de la faune sur place. J'imagine qu'il y aura toujours une production à base de viande, mais qu'elle sera moins importante.
Et qu'est-ce que vous avez appris des techniques de production ?
Le hachage, l'embossage, est-ce que c'est la même chose pour les saucisses végétariennes ?
Ce qui est génial avec la viande, c'est qu'une fois salée, elle contient de la myosine, une enzyme qui a la propriété d'agglomérer les éléments. Les légumes sont dépourvus de cette enzyme, donc il faut trouver un liant et s'assurer que la farce n'est pas trop mouillée. Parce que quand c'est trop humide, ça peut exploser.
Because when it's too wet, it might explode. And that's also the funny
anecdote amusante, le bangers and mash, la saucisse purée irlandaise, a été élaborée à une époque où les gens n'avaient pas assez d'argent pour manger des saucisses faites exclusivement de viande, et ils ajoutaient donc du pain à la chair à saucisse pour que ça se tienne dans la poêle.
Yeah. Est-ce que vous avez un souvenir personnel associé aux saucisses?
Pas mal grâce à ce projet. Dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de feux de camp et j'ai de beaux souvenirs dans les montagnes suisses.
Je trouve le débat sur les fausses viandes hyper intéressant. Faut-il imiter la viande pour aider les gens qui veulent moins en manger à quand même avoir l'impression d'en manger ? Ou faut-il au contraire inventer un nouvel imaginaire de recettes sans viande qui n'ont rien à envier à l'alimentation carnée ? Finalement, c'est une piste intermédiaire que défend Caroline Nibling en proposant de faire sur la forme des saucisses, oui, mais sur le fond, des préparations qui assument tout à fait leurs ingrédients. Autrement dit, des saucisses qui ne cherchent pas à faire croire qu'elles sont vraiment de la viande. Merci à Caroline Nibling et Antonin Bonnet de nous avoir donné de leur temps pour parler de saucisses ensemble. Bouffon est une émission de nouvelles écoutes portée par moi, Émilie Lestari, montée et mixée par Thomas Decourt, programmation par Cassandra de Carvalho et coordination par Laura Cuissard. À mercredi prochain!